Bonjour, bonjour. Donc bonjour, bonjour, bonjour.
1, 2, 1, 2, 3.
Il y a de la mousse qui est enlevée.
Oh.
3, 2, 1, c'est parti.
Je ne suis pas un intrus, juste un imprévu.
Singulier au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper, hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
الجزائر تتهول من كل وزبة لستيعول وقبالا نوري سول ألا ميزون بلانش ألا ميزون بلانش الجزائر تتهول كل وزبة لستيعول وقبالا نوري سول ألا ميزون بلانش ألا ميزون بلانش تدلق متتي الماوينه عمر حاجه تيلاوين وين يسعد.
Bonjour, comme tous les 4e mardis du mois, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue et www.rfpp.net pour nous écouter bien à La Réunion par exemple, hein, parce que Saint-Denis, ça n'est pas que à côté d'ici dans le 93, mais aussi à Saint-Denis à La Réunion. Voilà, hein, www.rfpp.net partout en streaming et 106.3 à Paris et proche banlieue. Cette émission sera rediffusée. Je crois que c'est mardi matin, mais vous regardez sur la grille des programmes très bientôt et sera bientôt disponible sur le site singulier au pluriel, hein, http://singulier avec un S, hein, ne pas oublier le S puisque singulier est au pluriel, donc singulier-6au-pluriel.net. Voilà, donc mais ça, il faudra attendre quelques temps, le temps que je le fasse. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bruno Courtet. Bonjour Bruno.
Bonjour Yves.
Donc Bruno, tu es directeur éditorial d'une petite maison qui s'appelle Le Muscadier.
C'est ça.
Et tu vas nous parler du Muscadier, hein, parce que c'est donc une petite maison que je connaissais. Je connaissais pas la maison, je connaissais les bouquins. Quelques-uns des bouquins et qui me... ce que j'avais lu me plaisait beaucoup et puis on s'est croisé au Salon du Livre, pas au Salon du Livre de Paris, mais au Salon du Livre de Montreuil en novembre ou décembre dernier.
C'est ça.
Et tu es revenu, donc là, puisque tu vis, je ne l'ai pas dit, mais tu vis à La Réunion. Hein,
exactement.
Et tu es revenu donc, et tu étais au Salon du Livre, mais tu n'as pas de stand au Salon du Livre de Paris.
Non, effectivement, oui, j'ai pas de stand. Le Muscadier n'a pas de stand au Salon du Livre de Paris. On essaye d'être présent de manière régulière depuis 3 ans maintenant au Salon du Livre de Montreuil, depuis que la maison publie des ouvrages de jeunesse. Mais sur Paris, c'est vrai que c'est un salon un petit peu au-dessus de nos moyens pour une maison comme la nôtre.
Ouais. Et donc tu vas nous parler un petit peu de toi et du Muscadier, parce que donc tu es un ancien banlieusard ou pariso-banlieusard.
Exactement.
Actuellement donc réunionnais.
Voilà, c'est ça. Oui, j'ai grandi en quelque sorte en banlieue sud de Paris, du côté de Bourg-la-Reine, Antony, et j'ai commencé mes études en me dirigeant vers une école d'ingénieur.
Ouais.
Et puis, dans les années 95, ne me voyant pas à titre personnel ingénieur, j'ai décidé de me réorienter vers les livres. Et là, j'ai fait une formation au niveau IUT métier du livre. Et ça a été une vraie découverte pour moi parce que j'avais trouvé ce qui me plaisait et ce que je voulais faire dans la vie, ce métier d'éditeur que j'adore.
Voilà, puis c'est intéressant l'édition quand même, parce que c'est...
Bon, tu verras beaucoup, tu entendras beaucoup d'éditeurs te dire, j'imagine que tu en connais beaucoup, te dire que c'est un métier de passion en fait. Et c'est vrai que c'est difficile de faire ce métier sans être passionné. Souvent, ce sont des passionnés qui font ça, oui.
Bah, les quelques éditeurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ont je sais pas si c'est ton cas, mais je suppose, enfin, quand on publie quelque chose, on a l'impression de contribuer un petit peu à changer le monde, quoi, d'apporter ces...
C'est effectivement l'une des raisons pour lesquelles je trouve ce métier formidable. C'est que d'une part on produit quelque chose de concret, un objet qu'on a dans les mains, et ça c'était aussi très important pour moi. Et puis, effectivement, ça permet de contribuer, comme tu le dis, à changer le monde. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, à porter sa touche au mouvement général, quoi. Ouais.
Voilà, porter sa touche. Et puis, j'ai un bouquin, tu disais, c'est un objet, c'est une histoire, ça raconte quelque chose, et ça apporte quelque chose au monde. Un livre, c'est voilà.
Quel que soit le livre, d'ailleurs, parce que moi, j'ai commencé ma carrière chez Dunod, donc. Dans les ouvrages universitaires, ouais. Et c'est vrai que bon là tu contribues différemment à changer le monde, mais en tout cas tu contribues à la formation des gens. Et puis après, quand j'ai quitté Dunod en 2005 et que j'ai créé une première maison d'édition, là effectivement j'ai commencé à prendre ma liberté et à créer quelque chose qui me correspondait plus, quoi.
Mmh.
Et puis quand en 2012 j'ai quitté cette première maison d'édition en 2011 et puis j'ai publié mon premier livre au nom du Muscadier en 2012. Et là effectivement j'ai lancé l'aventure de l'édition du Muscadier avec vers une aventure de comment dire d'édition engagée, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et le Muscadier c'est un nom qui a du goût, ça c'est.
Alors le choix du nom était un petit peu délicat parce que effectivement aujourd'hui tu sais les noms de domaines, les noms tout court de sociétés, les NPI, etc. Il faut quand même que tu fasses un petit peu attention à ce que tu choisis comme nom et moi j'avais la volonté de choisir un nom du moins qui rappelle la nature et un nom d'arbre correspond bien. Il y a d'ailleurs plusieurs maisons d'édition qui portent des noms d'arbres, j'en citerai pas, mais enfin tu dois en connaître. Et du coup, le muscadier, ouais, c'était une idée. D'une part, j'adore la noix de muscade.
Mmh.
Et puis, je ne sais pas, personne n'avait pensé au muscadier, et pourtant c'est une épice. L'idée que c'était une épice qui épicait, que les livres allaient épicer un peu la vie de mes lecteurs, je trouvais ça très très bien. Et du coup, le muscadier, et je trouvais que c'était une bonne idée.
Voilà. Et donc tu me parlais tout à l'heure quand on préparait un petit peu cette émission, mais en fait. Cette idée d'édition, d'image, c'est pas récent, c'est même assez ancien dans la famille.
Oui, alors effectivement, si tu veux, j'ai une famille on a une histoire un petit peu particulière dans la famille qui est que mon arrière-grand-père a inventé le dessin animé en 1908.
Ouais.
Il s'appelait Émile Courtet, il avait un pseudonyme qui était Émile Cole, et en 1908, il a créé le premier dessin animé cinématographique. Donc la culture de l'image, de la publication, du cinéma, de la littérature, de raconter des histoires, en fait, effectivement, on peut dire que c'est une histoire un petit peu familiale, oui.
Ouais. Et donc, tu vas nous parler un petit peu de cette aventure du Muscadier, 2012, tu sors ton premier, ou c'est le Muscadier, toi
Voilà, le Muscadier, c'est moi tout seul à l'époque,
ouais.
et donc je lance le Muscadier en 2011, et je lance ce projet d'ouvrage qui s'appelle « Alter Gouvernement ».
Ouais.
Et je le lance en particulier avec Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui sont des voisins quasiment, puisqu'ils habitent pas très loin de chez moi. Et pour l'anecdote, mon frère est leur facteur.
D'accord.
Et du coup, je dis à mon frère, écoute, je trouve que les Pinson-Charlot ont des choses vraiment très intéressantes à dire, et j'aimerais bien leur parler d'un projet d'ouvrage que j'ai. Eux, ils venaient de publier à l'époque, à la découverte, un ouvrage qui s'appelait « Le président des riches » qui avait très très bien marché. Et donc je les rencontre sur l'entremise de mon frère et je leur parle de ce projet de monter un gouvernement citoyen avec plusieurs personnalités citoyennes. Donc l'idée c'était vraiment de pas faire appel à des hommes politiques, mais vraiment d'essayer de faire ressortir dans cet ouvrage des idées engagées, des idées d'une certaine vision de l'égalité, de la liberté, d'une société juste et égalitaire, si tu veux, et que je ne retrouvais nulle part dans aucun programme à l'époque. C'était donc peu de temps avant l'élection présidentielle de 2012. Et donc petit à petit, j'ai fédéré un certain nombre d'auteurs. J'ai contacté énormément de monde. Et on a réussi à travailler avec Paul Ariès, avec Jacques Testard, avec des tas de gens dont j'appréciais beaucoup le travail et qui ont accepté de nous suivre et de participer au projet. Voilà.
Voilà. Et donc ça a fait ce premier bouquin qui, alors, je t'avouerai que je l'ai pas lu, mais
c'est
qui,
pas grave, tu peux...
la façon dont tu en parles a l'air d'être tout à fait d'actualité 5 ans après.
Alors oui, c'est marrant d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de les ventes du livre ont repris là depuis quelques mois, depuis que la campagne présidentielle battait un peu son plein. Et effectivement, il y a dans ce livre il y a une sorte de programme citoyen donc qui répond à un certain nombre d'aspirations, je pense, de la société telle qu'on la voit aujourd'hui. Et j'entends beaucoup de choses autour de moi, on entend beaucoup de choses dans les médias aussi. Et y a vraiment dans ce livre des idées qui, à mon avis, pourraient faire beaucoup de bien à la société d'aujourd'hui. Ouais.
Oui, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire du bien à la société d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que tout va très bien. Et donc ce livre va lancer les éditions.
Exactement, c'est-à-dire qu'on commence à communiquer sur ce livre l'émission Là-bas si j'y suis à l'époque de France Inter nous contacte et nous dit bah voilà, nous vos 18 ministres citoyens, puisqu'on avait appelé le livre Alter Gouvernement et que on avait vraiment la volonté de monter ça sous forme d'un gouvernement fictif quoi. Nous contacte et nous dit bah on voudrait interviewer un certain nombre de vos alter ministres parce que ce qu'ils écrivent dans le bouquin est vraiment passionnant. Et ils vont créer comme ça, ils vont monter 4 émissions de radio d'affilée sur le livre. Et là, ça va vraiment lancer l'ouvrage et la maison d'édition. Donc, c'était en janvier-février 2012.
Ok. Voilà. Et puis après, donc, il va y avoir beaucoup d'autres livres, il va y avoir des collections qui vont se créer, il va y avoir...
Exactement. C'est-à-dire qu'on va commencer par lancer 2 autres livres hors collection. Un livre qui s'appelle « Marine ne perd pas le Nord », qui est un essai sur comment... un certain parti politique s'inspire de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, et puis qui est écrit par Laurent Chambon, qui est un sociologue qui était un ami, que j'avais connu au lycée, et puis derrière un petit pamphlet qui s'appelle « Panacée pour le chômage et les retraites ». Et donc petit à petit, on va s'engager sur cette voie d'essais ou de textes littéraires engagés. Et derrière, on va créer une première collection qui s'appelle « Le choc des idées », qui elle est dirigée par un jeune sociologue qui s'appelle Jérôme Dallacera. Ouais. Et qui me propose de créer cette collection qui sera une collection de débats, donc sur des thématiques sociétales particulières. En l'occurrence, on a une dizaine de titres dans la collection, sur le nucléaire, sur l'agriculture biologique, la mondialisation, etc. Une dizaine de thématiques comme ça qui sont développées sous forme de débats avec, pour chaque ouvrage, 2 débatteurs qui proposent une idée opposée, le pour, le contre en fait, et un médiateur qui présente le projet, le sujet, et qui va faire une conclusion aussi.
Ok. Et donc ça, tu veux publier quel titre et quel sujet dans cette collection ?
Alors donc, on a commencé par 4 titres en 2013. Un sur les réseaux sociaux, qui a plutôt bien marché, qui continue de bien marcher aujourd'hui. Le titre est très pas mal, c'était « Les réseaux sociaux sont-ils nos amis ?» Celui-là, il intéresse beaucoup les enseignants. Voilà, c'est un livre qu'on continue à bien vendre. Un livre sur l'école publique ou école privée, un livre sur la vidéosurveillance et un livre sur les retraites. Ces quatre livres-là vont, vont être publiés dans la collection Choc des idées dès, je crois que c'était l'été 2013. Et bon, pas très bien positionné malheureusement en librairie à l'époque, problème de diffusion. Donc, on a surtout communiqué sur ces livres-là a posteriori pour essayer de les relancer et, de, et d'en faire des ouvrages de référence sur les sujets concernés, quoi.
Ouais. Et ça, c'est une chose qui. Alors, je t'avoue aussi que cela, moi, c'est dans d'autres collections que j'ai surtout lu Muscadier. Cette collection-là, je la recommande parce que tu en parles vraiment bien, mais je ne vais pas faire semblant de les avoir.
Ah oui, tu ne les connais pas forcément.
Mais il y a certains sujets où, pour moi, ça me paraît très difficile de faire parler le pour et le contre. Parce que, d'une part, le contre ou le pour, ça dépend de quel côté on se prend, mais un des côtés. Et on n'entend que ça sur les médias,
ouais.
Donc on a déjà tout le discours et il n'y a rien de défendable selon le point de vue qu'on par exemple le nucléaire, les pro-nucléaires, on entend tout le discours pro-nucléaire qui est pris partout, les anti-nucléaires sont peu audibles ou alors des gens qui ne sont pas forcément crédibles et qui parlent contre, alors qu'il n'y a rien de défendable dans le nucléaire.
Alors, notre volonté, là, avec cette collection, c'était vraiment, comme tu le dis, il y a un certain nombre de personnes qui sont, qui vont défendre des sujets pour lesquels nous, on va pas, évidemment, militer. Le nucléaire est un bon exemple. On a d'autres thématiques dans la collection, comme le gaz de schiste, par exemple.
Mm-hmm.
Voilà. C'est sûr qu'on avait fait le choix de donner la parole, effectivement, à ceux qui défendent ce genre de choses et aussi à ceux qui s'y opposent de manière tout à fait égalitaire, de manière qu'il n'y ait pas de... Parce que ça, généralement, les médias ne le font pas forcément, ou alors quand ils le font, c'est pas fait de manière très compréhensible par le public, parce que il y a des débats un peu violents ou en tout cas on laisse pas toujours parler les bonnes personnes, etc.
Et puis beaucoup de médias, pardon de te couper, beaucoup de médias défendent des intérêts
aussi.
Donc même sous couvert d'objectivité, je veux dire un média qui dépend d'un constructeur va pas être forcément contre le gaz de schiste.
C'est vrai.
Donc il va, les choses sont de toute façon biaisées au départ et on va faire une fausse objectivité. Donc beaucoup.
Voilà. Sauf que là, justement, l'idée c'était de rétablir l'objectivité, donc de donner aussi la parole aux gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nos idées à nous. Quand on a publié, par exemple, Alter Gouvernement, on avait un alter ministre de l'écologie, Geneviève Azam, de mémoire, qui défendait la suppression du nucléaire, etc. Mais dans la collection Choc des idées, on voulait être vraiment neutre pour que les gens, c'était d'ailleurs le slogan, enfin la baseline de la collection, c'était « Forgez-vous votre propre opinion
».
C'est-à-dire, on vous donne les arguments pour, on vous donne les arguments contre, on vous présente le projet de manière aussi compréhensible que possible, et après vous faites votre idée. Nous, il est évident qu'au Muscadier, on s'opposait à un certain nombre de choses, mais dans cette collection, ce qui était important pour nous, c'était de rester neutres. Sinon, on n'aurait jamais eu les auteurs qui n'étaient pas d'accord avec nous.
Ouais.
Il fallait qu'on leur donne le même temps de parole qu'à ceux avec lesquels nous, on était peut-être plus d'accord. Mais voilà. Et du coup, la collection est très neutre. Mais chacun peut se faire son idée à partir des bouquins. On a fait la mondialisation, on a fait le gaz de schiste, on a fait « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» On a fait un certain nombre de thématiques comme ça. « Faut-il dépénaliser le cannabis ?» Voilà, il y a une dizaine de titres qui sont disponibles dans la collection où, à chaque fois, on donnait la parole à des gens avec qui on n'était pas forcément d'accord, nous, au Muscadier, mais on leur donnait la parole comme de manière à ce qu'ils puissent présenter leurs arguments.
Donc ça, c'est la première collection au Muscadier.
Voilà, ça, c'est la première collection. Et en 2014, je rencontre un libraire jeunesse que nous avions d'ailleurs démarché à l'époque d'Alter Gouvernement, et qui nous avait dit « Alter Gouvernement est vraiment très intéressant, je trouve que vous devriez faire aussi quelque chose pour la jeunesse ». Et donc, derrière, je le rencontre, et puis on décide de monter une première collection jeunesse engagée qu'on va appeler Place du Marché.
Ouais.
Voilà. Et là, on va publier, effectivement, dans cette collection, qu'on va lancer, je crois, en 2014... On va publier d'abord des auteurs de grands auteurs contemporains jeunesse comme Michel Picmal, ouais, ou Julia Billet, ou voilà, y compris des auteurs qui écrivent leur premier roman jeunesse comme Philippe Milberg avec 40 jours d'automne. Et la collection va se développer comme ça. On va faire, je crois, 6 titres en 2014, avec entre autres Christophe Léon,
ouais,
qui nous écrit Pense Bête, qui est le best-seller de la collection, qui est un recueil de quatre nouvelles absolument fantastiques, écrites avec beaucoup d'humour, qui défendent la cause animale et qui est voilà, qui est un excellent petit recueil de, je sais plus, 96 pages ou quelque chose comme ça, et qui marche, qui démarre très bien et qu'on va retirer bientôt là d'ailleurs.
Oui, et donc les bouquins de Julia Billet aussi sont très chouettes. Hein.
Ouais, Julia nous a fait le plaisir de venir publier, de venir republier un ouvrage, une nouvelle qu'elle avait déjà publiée, alors je ne sais plus chez quel éditeur, qui s'appelait, alors je crois que ça, je ne sais plus si ça s'appelait Promesse ou Le fil invisible. En tout cas, il y a l'une des deux nouvelles qui avait déjà été publiée. Elle en écrit une deuxième pour qu'on puisse publier un livre dans la collection. Et voilà. Et donc c'est un vrai plaisir de travailler avec Julia parce que c'est quelqu'un d'adorable. Ouais. Qui écrit très bien en plus.
Ouais. C'est ça. Mais moi, ce que j'aime bien, donc je connais un petit peu mieux cette collection. Enfin, un petit peu mieux, pas très bien. J'ai lu quelques bouquins de cette collection et c'est tout. On en a plein sur sa table de chevet et puis on lit pas tout ce qu'on a.
Tu n'es pas le seul.
Et enfin, moi, ce que j'apprécie beaucoup et le fil conducteur de ce que j'ai pu lire dans cette collection, c'est que à la fois c'est très bien écrit.
Ouais.
Et il y a un côté, je veux dire, les personnages me paraissent vrais, c'est des gens qui sont jeunes, c'est jeunesse, mais pas, je veux dire, moi j'ai pris énormément de plaisir à les lire et puis il y a toute une réflexion effectivement de jeunes parce que le personnage principal c'est souvent un ado,
ouais.
Tu m'arrêtes si j'ai des bêtises parce que je les ai pas tous lus, hein, et qui raconte des problèmes qui sont des vrais problèmes d'ado et qui sont raconté de façon très vraie.
Ouais, c'est pas toujours, c'est vrai que c'est pas toujours le cas d'avoir des ados en personnages principaux, mais c'est vrai par contre que d'une part, on a quand même sélectionné les textes pour leur qualité littéraire. C'est vrai que c'est des auteurs, on a beaucoup de chance de travailler avec des auteurs comme Michel Picmal, Julia Billet ou d'autres qui ont écrit, ou François David. On a quand même un certain nombre d'auteurs de référence en jeunesse. Et les thématiques sont toujours choisies pour répondre à des questions, ou en tout cas pour susciter le débat sur des questions sociales, éthiques, écologiques, etc. Et c'était la ligne directrice de la collection Place du Marché. On avait fait des ouvrages qui s'adressaient, on va dire, à partir de 10 ans, 9-10 ans pour certains, et puis pour d'autres à partir de 12-13 ans. Et puis à un moment, on a voulu faire des textes un petit peu plus pour les un peu plus grands, donc pour le lycée, à partir de 14-15 ans, on a commencé à aborder des thématiques. Par exemple, Florence Cadi a sorti en juin 2015, je crois, un livre qui s'appelle Contre-courant, qui regroupe 9 nouvelles absolument extraordinaires sur et je trouve que le livre représente vraiment très très bien la collection et même l'ensemble de la politique éditoriale du Muscadier sur la jeunesse. C'est 9 nouvelles qui vont avoir comme personnages principaux des gens qui vont à un moment être confrontés à une injustice et qui vont s'opposer à cette injustice. Alors il va y avoir une nouvelle, par exemple, sur Sophie Scholl, sur les 9 de Little Rock aux États-Unis, à chaque fois, il va y avoir cette trame, il va y avoir une nouvelle qui va se passer en Afrique, dans un pays qui condamne l'homosexualité, il va y avoir une nouvelle sur comment se passaient les interruptions, les IVG avant leur autorisation.
Voilà. Et ça prend les choses de façon totalement humaine, c'est-à-dire que il y a même pas de polémique, quoi. Quand on parle de l'IVG, c'est l'histoire de la gamine qui est enceinte.
Ouais.
Et c'est un petit peu avant la libération de l'IVG. Donc ouais, c'est au moment de tous les mouvements avec le Black, le mouvement pour la, je m'oublie ce que ça voulait dire, Black, pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
Oui, c'est ça. On veut, et tu as vu, les textes sont, tu le disais tout à l'heure, souvent des textes réalistes. On est très loin du prince charmant et des histoires à l'eau de rose au muscadier. C'est évident que on veut susciter le débat. On veut pas non plus provoquer, c'est-à-dire que les textes vont pas trop loin non plus, je trouve. Enfin, nous, on fait attention à ça aussi, parce qu'on s'adresse à des ados, et c'est important aussi de s'adapter au public auquel on s'adresse. Mais on publie quand même des textes sur des thématiques qui ne sont pas souvent pas abordées, ou du moins abordées de manière peut-être moins directe chez d'autres éditeurs.
Absolument, et puis qui sont abordés, enfin absolument, parce que j'en ai lu, hein, ouais, j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai lu m'a beaucoup plu. Et là, par exemple, donc il y a cette nouvelle sur l'avortement, où c'est, je veux dire, tu retrouves en même temps la question, elle se pose, ça n'est pas que la question de l'avortement tout seul, c'est la question de l'avortement dans les relations avec les parents, avec les grands-parents, avec les copains, avec le copain qui est le papa de l'enfant, qui est le papa, avec en même temps, qu'est-ce que ça veut dire d'avorter quand l'avortement est interdit,
ouais.
En même temps, donc c'est à l'époque où il y a ce procès, et la nouvelle qui traite de l'homosexualité, je veux dire, bon, c'est dans un pays d'Afrique, mais ça pourrait se passer dans beaucoup d'endroits, ouais. Et là aussi, je veux dire que c'est une histoire d'amour interdite, et puis
et une violence derrière,
une violence
par rapport à ça, oui. Que la société, que le livre, une violence de la société, en l'occurrence de cette société-là, que le livre essaye de retranscrire, oui.
Ouais. Et puis tu publies aussi des choses qui sont audio.
Alors on a effectivement dans notre en dehors de nos collections, on a de temps en temps fait des ouvrages hors collection, dont faisaient partie les trois premiers dont je te parlais tout à l'heure. Et puis, on a publié un ouvrage qui s'appelle Contrebelle,
ouais.
qui est un ouvrage, un recueil de contes du sous-commandant Marcos.
Ouais.
Qui était le représentant des apatistes et
qui est toujours le sous-commandant Marcos.
Il est plus aujourd'hui leur représentant. Il a laissé la main, mais il y a pas longtemps.
Ouais.
Mais par contre, il écrit en plus de son existence militaire et de rebelle et d'opposition. Il écrit des textes qui sont souvent des textes philosophiques. Qui s'adresse, aux jeunes adultes et aux adultes, sur la liberté, sur un certain nombre de thématiques comme ça. Et ce recueil, en fait, est une traduction d'un ouvrage qui a été publié d'abord en espagnol,
ouais.
Et puis qui a été traduit en plein de langues. Et pour le français, le Muscadier avait été sollicité, effectivement. Et dans ce livre, on a, et c'est le principe du livre, y compris dans les autres pays, on a un CD qui regroupe tous les textes lus par des célébrités, on va dire.
Oui.
Donc sur CD, on va avoir des gens comme Manu Chao, comme Serge Peille, comme Daniel Pénac aussi, qui va nous lire un texte. Beaucoup d'artistes qui ont accepté bénévolement de participer au projet, de lire ces textes du sous-commandant Marcos et de les enregistrer pour le CD qui est vendu avec le livre.
Alors pour notre petite pause musicale, qui ne sera pas une pause musicale mais une pause comptée, je te laisse choisir un des titres de ce CD.
J'aime beaucoup, le texte qui est lu par la compagnie, qui est compté par la compagnie Tamerantong, qui évoque une petite fille qui s'appelle Tonita et qui rentre dans la case du sous-commandant Marcos, et le sous-commandant va pas être content du tout. Et c'est très très bien lu, très bien raconté et très bien mis en scène par la compagnie Tamerantong. Ouais.
Puis en plus, si on prend ça, ça peut pas passer à la radio. Il y a des illustrations qui sont très sympas.
Oui, il y a de très belles photos et de très belles illustrations dans le livre. Ouais.
Et bien donc tout de suite, la compagnie Tamerantong.
L'autre jour, pour changer, Tonita a pénétré sans autorisation dans le commandement général de l'EZLN, une forteresse réputée inexpugnable. En réalité, il s'agit d'une petite cahute. J'étais en train de réfléchir aux thèmes qui seraient les plus appropriés pour ces tables prétendues rondes du festival de l'adignorage quand je me suis rendu compte que Tonita était à mes côtés.
Hé, toi ! Écoute, soupe ! Ça ne va pas ce que tu fais comme ça !
Elle me montrait une photo grandeur nature d'Angelina Jolie, légèrement vêtue. Ça ne va pas que je fasse quoi ? Et je révisais les barrières anti-Tonita que j'avais disposées pour éviter qu'il se passe ce qu'il se passait.
Eh ben, ce que tu fais là comme ça ! Pourquoi tu as cette dame toute nue avec toi ?
J'ai allumé ma pipe et j'ai répondu. Premièrement, elle n'est pas toute nue. Je ne demanderai pas mieux. Et deuxièmement, elle n'est pas avec moi. Je ne redemanderai pas mieux. Tonita, comme à son habitude, a raté une partie du film, car elle me demande...
Et le troisièmement ?
Quel troisièmement ?
Ben, s'il y a un premièrement et un deuxièmement, il y a un troisièmement. Moi, j'étais troisième à l'école.
Tonita oubliait de préciser qu'il n'y avait que trois élèves dans sa classe. Comme je ne veux pas me lancer dans une polémique, je lui propose que si je lui raconte une histoire, alors elle s'en ira la raconter aux autres.
D'accord, vas-y, je t'écoute.
Elle s'assoit par terre. Bon, il y aura une fois...
Et il va y avoir du pop-corn ?
Comment ça, du pop-corn ?
Ben oui, du pop-corn. Comme quand on regarde un film.
Non, Tonita, c'est un conte, pas un film, et il n'y a pas de pop-corn.
Bon, vas-y, je t'écoute là.
Donc, il y aura une fois un sous-commandant qui était très méchant et qui se fâchait très fort contre les petites filles qui venaient sans permission dans le commandement déranger les gens. Tonita prête attention. J'en profite pour donner un tour pédagogique au récit, avec un style et une méthode à faire pâlir les plus grands maîtres en la matière, Paulo Freire et Anton Makarenko. Alors, quand une petite fille se glissait sans permission dans le poste de commandement, le sous-commandant, il sortait sa machette et tchac, il coupait la tête de la petite fille.
Oh là là !
Tonita écarquille les yeux. Terrorisée. Voyant que le concept éducatif essentiel faisait son chemin, je décidai de renforcer le récit avec cette technique marcosienne qui m'a valu une grande réputation dans les colloques de psychologie où l'on cite beaucoup Freud, Fromm, Luria et tout ça. Et la machette n'était pas aiguisée pour qu'elle mette plus de temps à couper. Et elle était bien rouillée en plus pour que la blessure s'infecte. Tonita, horrifiée, s'attendait à un happy end.
Et après ?
Et après quoi ?
Ben, la suite de l'histoire !
Eh bien, il a fallu faire beaucoup de piqûres à la petite fille pour qu'elle ne s'infecte pas. C'est fini !
C'est fini ? Eh ben, soupe ! Alors là, tes comptes là, ça ne va pas là !
Bien sûr que ça va ! Et maintenant, sors de la cahute.
Oui, je m'en vais. Mais ça sert à rien d'avoir la dame toute nue là, s'il n'y a pas de pop-corn.
Et elle s'en alla. L'affaire ne s'arrête pas là. La réunion à laquelle j'assistais avec les compañeros du comité se termina. De retour, bouclant mon sac à dos pour regagner le cantonnement, je m'aperçois que ma machette n'est pas là. Tonita. Je la fais appeler.
Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ?
Écoute, Tonita, je ne trouve pas ma machette. Tu ne l'as pas vue ?
Non, mais je vais te raconter un conte. Écoute-moi. Il y avait une fois une petite fille très belle, juste comme moi, et qui s'appelait Tonita, tout comme moi. Et alors ? Il y avait un sous-commandant très méchant qui voulait lui couper la tête avec sa machette.
Et pourquoi il voulait lui couper la tête ? Je tentais en vain de reprendre le contrôle de la situation.
Allez savoir, je crois que ça lui est venu à l'idée comme ça. Et alors, bon, La petite fille s'est glissée en cachette dans la petite maison de ce sous-commandant. Et alors, elle a pris la machette de ce sous-commandant et l'a jetée dans les cabinets. C'est fini.
Tonita dit ce « c'est fini » déjà bien hors de ma portée. Donc, je crois que je sais où est ma machette. Maintenant, il ne reste plus qu'à la récupérer. Il y a un ou une volontaire ?
C'est fini !
Toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp.net pour nous écouter partout dans le monde, donc aussi bien dans votre bureau si vous êtes à Paris, si vous êtes à Brest, mais vous pouvez aussi nous écouter donc à Saint-Denis de la Réunion, ou même à Kaboul, ou au Mexique, hein, dans le Chiapas, à condition d'avoir une connexion internet suffisamment rapide, ce qui n'est pas gagné partout d'ailleurs. Donc on va continuer, donc on est toujours avec Bruno Courtet, donc qui est le directeur éditorial des éditions du Muscadier, hein. Tu nous parlais donc Comment est née cette maison d'édition suite à une première maison, d'abord un bouquin, puis plusieurs, puis des collections, des directeurs de collection, des auteurs qui viennent, donc un arbre avec une petite graine et un arbre qui grandit.
Exactement, qui grandit, et puis on a continué à développer d'autres collections dans la maison. On a commencé en fait, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais une formation scientifique et je suis toujours resté malgré tout intéressé par les sciences. Et en 2015, mon directeur de collection Choc des idées, Jérôme Dallacera, me dit l'INSERM souhaiterait nous rencontrer parce qu'il cherche à faire une collection de vulgarisation de leurs recherches pour le grand public. Et donc là, on rencontre l'INSERM, on tombe sur des gens adorables et qui vraiment ont envie de vulgariser leurs recherches à destination d'un public qui ne touche pas généralement, ou même pas toujours très facilement, pour que les gens sachent un petit peu où en sont les recherches médicales aujourd'hui sur tout un tas de maladies, de pathologies. Et on lance la collection Choc Santé en 2015 avec un ouvrage sur Alzheimer, un autre sur la dépression qui a très très bien marché, qu'on va bientôt retirer lui aussi.
Alors on va peut-être rappeler ce qu'est l'INSERM, hein, c'est l'Institut.
Alors pardon, oui, l'INSERM c'est l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale.
Voilà, hein, c'est...
Ouais. C'est un organisme public qui gère tout, qui organise la recherche française au niveau de la médecine.
Voilà.
Et donc du coup l'INSERM nous fait confiance là-dessus, et donc depuis on a publié 8 titres à ce jour dans la collection Choc Santé sur le diabète, sur les AVC, l'infarctus, le suicide adolescent aussi, des ouvrages qu'on veut le plus vulgariser possible, le plus ouvert possible, de manière que ça rejoint un petit peu l'idée de fond générale du Muscadier qui veut qu'on promeuve un petit peu l'émancipation des gens. Là, c'est un petit peu émancipation au niveau de la santé, c'est-à-dire, je me pose des questions sur telle ou telle pathologie, j'ai à ma disposition un livre qui va m'expliquer un petit peu ce que c'est, quels sont les risques, où en est la recherche aujourd'hui, etc. Voilà.
Ok. Voilà. Donc ça, c'est une collection. Et tu peux nous citer tous les titres. Il y a combien de titres dans cette collection et...
Aujourd'hui, il y en a 8. On en prépare 2 autres. Ouais. Donc j'ai dû te les citer à peu près tous. Non, il m'en manque 2. J'ai oublié Vaccination, qui est un titre qui a très bien marché. Parce que c'est une thématique aussi qui intéresse beaucoup une grande partie du public, entre autres les pédiatres. Parce que c'est aussi une collection qui s'adresse aux professionnels de santé, aussi bien qu'au grand public. Donc ça, la vaccination avait aussi touché un large public. Et il m'en manque un, je crois, l'activité physique.
Voilà. Oui.
Donc ça fait nos 8 titres. Et puis là, on prépare un livre sur l'alcool.
Ouais.
Alcool, plaisir ou souffrance, qui doit sortir en mai bientôt. Donc, et puis un autre sur les tests génétiques. Voilà.
Ok.
Voilà. Et puis, du coup, en 2016, on lance une nouvelle collection jeunesse. avec toujours l'idée de, d'aborder les thématiques, mais on passe à la vitesse supérieure, avec Christophe Léon, donc, que j'avais connu comme auteur,
ouais.
Et après, une séparation avec mon premier directeur de collection, on décide de lancer Rester Vivant avec Christophe, et là, on passe à une vitesse vraiment supérieure avec des auteurs comme... des auteurs jeunesse assez connus comme Cathy Itac, comme Arnaud Tiercelin, comme j'en ai plein, mais Jean-Luc Luciani, voilà. Sur cette collection, on est à 10 titres aujourd'hui.
Ouais.
C'est une super belle aventure parce que il y a des textes absolument merveilleux. À nouveau, sur des thématiques qui me touchent beaucoup, Cathy Itac a sorti un livre qui s'appelle « Les mains dans la terre », qui raconte, je ne sais pas si tu l'as lu celui-là, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va choisir une autre direction que celle que lui imposent ses parents.
Ouais, je l'ai pas lu.
Je ne raconterai pas la fin, mais en tout cas, c'est sur comment on peut sortir aussi d'un destin qu'on veut t'imposer,
ouais.
Pour choisir de faire ce qui te plaît vraiment dans la vie, quoi.
Donc, les mains dans la terre.
Voilà.
Et pourquoi ce titre ?
Ah bah parce que ça touche. En fait, ce jeune homme va se diriger vers un métier de potier.
Ouais.
Alors qu'on le destinait à un métier de chef d'entreprise,
mmh.
Tu vois. Donc c'est la terre aussi est aussi un symbole, voilà. Et puis avec le muscadier ça va bien. C'est aussi un symbole de pragmatisme les personnes terriennes, tu vois. Il y a un côté comme ça.
Oui, c'est
très pragmatique, très réaliste. Voilà, et puis Pripyat Paradise d'Arnaud Tiercelin aborde la question du nucléaire dont on parlait tout à l'heure. Ça se passe à Pripyat, donc la ville qui était près de Tchernobyl, la ville fantôme. Donc là, on a sorti en février 2017 trois titres. Un sur la phobie scolaire, qui démarre très très bien, de Fanny van der Merch, qui est une jeune auteure, c'est son premier roman jeunesse. Un autre de Mireille Disdero qui s'appelle L'Orient Extrême, qui lui aborde la question des abus sexuels des jeunes, des ados asiatiques dans l'Asie du Sud-Est. C'est des thématiques un peu difficiles, mais Mireille écrit de manière vraiment magnifique et très douce malgré la thématique dure. Et le dernier, c'est Jour de soleil, qui est un recueil de nouvelles de Claire Mazard.
Ouais.
Je ne sais pas si tu connais Claire, qui écrit très très bien aussi, qui écrit pour d'autres éditeurs, et qui nous avait fait l'année dernière dans la même collection un livre qui s'appelait Jour de neige. Donc tu vois, on a le pendant, jour de neige, jour de soleil.
Ouais.
Et voilà, et à chaque fois, c'est des sujets de littérature engagée sur plein de choses différentes.
Oui, puis il y a toujours, moi c'est une des choses qui me plaît, enfin, dans ce que j'ai lu encore, hein, c'est qu'il y a toujours cet engagement, l'air de rien. Enfin, souvent l'air de rien. Maintenant, quand on publie un album des contes du sous-commandant Marcos, c'est déjà beaucoup moins l'air de rien.
Ouais, c'est clair.
Mais c'est quand même un peu, parce que j'ai regardé de ce bouquin et de cet album, il y a quand même ce côté l'air de rien.
Oui.
C'est les choses coulent de source, quoi.
On peut lire, n'importe qui peut lire ces livres. Après, moi, j'ai des tas d'amis qui sont enseignants. Ils n'ont pas tous les mêmes opinions politiques ou autres, en tout cas. Mais en tout cas, c'est des sujets qui vont toucher un petit peu tout le monde, tous les ados, la société en entier, en fait. Et effectivement, voilà, on se fixe pas forcément de tabous ou de limites sur les sujets, à part la seule limite étant de le faire de manière adaptée au public. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, Cathy Itac m'a dit « Je suis venu publier chez toi ce livre parce que j'avais pas trouvé dans les autres éditeurs qu'il a publié habituellement un éditeur qui était susceptible d'aborder cette question-là. » Voilà. Donc ça fait plaisir, tu vois, quand tu as un petit éditeur, tu as une auteure aussi connue que Cathy qui vient te dire ça fait très plaisir. Ouais.
Ouais, ça me gêne toujours, d'ailleurs, quand on parle d'édition, on dit petit éditeur, c'est vrai que c'est un petit éditeur, puis quand on regarde votre catalogue, quand on regarde la qualité de votre catalogue, Après tout, le muscadier, c'est pas une petite édition que ça. C'est
petite par les moyens déjà.
Ouais.
Petite parce que je suis tout seul vraiment dans la société. Je suis le gérant de la société et je suis tout seul dans la société. Après, je travaille avec des gens extérieurs, mes directeurs de collection, sans qui je ferais pas grand chose. Et puis aussi, bien sûr, tous les gens qui travaillent avec moi pour la mise en page, la composition, l'impression, etc. Mmh. Voilà. Mais ouais, c'est une aventure au départ où j'étais seul, mais où on lance quand même beaucoup de choses en commun maintenant.
Oui, donc t'es seul, comme on pourrait dire administrativement, ouais. Mais c'est quand même forcément tout un travail d'équipe, hein, sinon ouais, ça pourrait pas fonctionner. Ouais. Et tu es donc petite question qui n'a rien à voir, enfin pas forcément quelque chose à voir direct avec l'édition, mais ta maison d'édition est à Paris et toi tu es donc à La Réunion et c'est peut-être un peu compliqué.
Alors en fait, oui effectivement je travaille de chez moi, donc je travaillais de chez moi en région parisienne. Et puis un jour, avec mon épouse, on a 4 enfants, donc on est une famille un peu nombreuse,
ouais.
Et on s'est dit, elle travaille aussi de chez nous, et on s'est dit, bah finalement, pourquoi travailler de chez nous à Paris alors qu'on pourrait le faire d'une île tropicale au soleil. Et on s'est lancé dans ce projet. Et très très vite, on a pris 6 billets d'avion aller simple,
ouais.
Vers La Réunion, qu'on ne connaissait pas. Mais le côté, alors ça c'était important pour nous, le côté modèle de vivre ensemble de La Réunion nous a énormément plu. Et quand on est arrivé, ça s'est pas démenti. C'est-à-dire que tout de suite, on s'est senti adopté par cette île, par ses habitants. Aujourd'hui, on trouve que cette île est merveilleuse. Elle est merveilleuse au niveau des paysages. Elle est merveilleuse au niveau des gens qu'on y croise. Elle est pleine de vie, pleine de dynamisme. Et j'adore cette île. Et ça fait 1 an et demi que j'y suis. On y trouve énormément de plaisir avec toute la famille. Les enfants aussi bien que nous. Et plus longtemps on pourra y rester. Et voilà. Et le travail se passe un petit peu de la même manière que quand je travaille en région parisienne, sauf que au lieu de faire des réunions dans des bureaux, on les fait par Skype
et puis
téléphone.
C'est vrai qu'avec Skype et le téléphone, ça n'est plus comme c'était il y a quelques dizaines d'années où un aller-retour et se faire envoyer un manuscrit depuis la métropole, ça mettait quelques mois en bateau.
C'est clair.
Et puis renvoyer les corrections en métropole, ça remettait quelques mois. Et donc l'aller-retour mettait quasiment 1 an.
Aujourd'hui, c'est vrai que tout est immédiat, en fait. Donc, toute la technologie des mails et on fait énormément de choses très rapidement, sans souci, quoi, vraiment.
Donc, maintenant, c'est tout à fait possible. Et La Réunion, c'est une île qui est singulièrement plurielle.
Exactement. C'est vraiment bien. C'est vraiment exactement ça. Toutes les communautés s'entendent bien. On est séduits par ce vivre ensemble, vraiment admirable, ouais. Oui, puis, il fait beau. Il fait chaud.
C'est pas désagréable.
C'est pas désagréable. On a quelques pluies tropicales de temps en temps. Les cyclones, on n'en a pas encore eu depuis 1 an et demi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que on revient en métropole de temps en temps. Par exemple, pour Montreuil ou pour d'autres occasions. Et puis, on a notre famille aussi ici. Mais c'est une belle aventure, en tout cas, humaine. Et qui nous correspond bien, en tout cas.
Ouais. Et tu peux peut-être nous présenter, avant de retrouver au fond près du radiateur, tu peux peut-être nous représenter, nous parler de quelques autres bouquins.
Qu'on a publié récemment avec un auteur qui s'appelle Yves-Marie Clément.
Ouais.
Qui donc fait partie de notre collection Rester Vivant, la collection dirigée par la jeunesse dirigée par Christophe Léon. Et c'est un livre auquel je suis particulièrement attaché parce que déjà il commence dans l'océan Indien, entre Madagascar et Mayotte, c'est pas loin de La Réunion, donc c'est un petit peu ma nouvelle région d'adoption. Et c'est un livre qui c'est le plus gros livre jeunesse qu'on a publié. Il fait près de 200 pages. Ça reste quand même un livre pas très épais pour des ados qui aiment lire. Mais c'est un texte absolument merveilleux que j'ai envie de défendre parce que déjà Yves-Marie Clément écrit très très bien. Et puis, ça rejoint l'actualité. L'actualité, on parle beaucoup de Mayotte. On parle
oui, et ce
de...
sera d'ailleurs le thème de l'émission RSF de demain avec l'ANAFE. Hein,
tu vois, ça tombe bien.
On va parler demain. Demain, on parlera de Mayotte.
Voilà, il y a, Natacha Appanah qui a sorti son livre chez Gallimard sur Mayotte et qu'on a contacté, a été contacté par Yves-Marie aussi. Et ce livre, ce livre s'appelle « La peau noire des anges ». Il raconte l'histoire d'une jeune fille de 13 ans, malgache, qui va chercher avec ses parents à fuir la pauvreté de Madagascar en se réfugiant à Mayotte. Et leur bateau va malheureusement faire naufrage. Et elle va être récupérée avec son petit frère et elle va vivre à Mayotte quelques temps. Et ses parents sont probablement morts dans le naufrage, mais elle est persuadée du contraire. Et du coup, pour tenter de les retrouver, eh bien, elle va être amenée à revenir à Mada et à se faire exploiter. Et ce texte raconte un petit peu les nouvelles formes d'esclavage moderne. Cette jeune fille de 13 ans va être exploitée par tout un tas de personnes assez peu recommandables. Heureusement, elle a une forte personnalité, donc à chaque fois, et puis elle va croiser des gens qui vont l'aider. Et donc, du coup, on a un petit peu dans ce livre les deux. Enfin voilà, à la fois la noirceur d'une certaine société et à la fois aussi les côtés positifs, la bonté d'un certain nombre de gens qui vont lui permettre de s'en sortir et de passer outre ce mauvais karma de départ pour dépasser ça. Et voilà, elle va être amenée aussi à se retrouver au Liban. Donc, et puis elle va se retrouver, l'histoire va aussi passer par la France, par Paris, par Fécamp, et puis elle va se retrouver à Mayotte, et puis voilà, je ne raconte pas la fin, mais
j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai lu dans le catalogue l'annonce de ce livre, et ça m'a donné très très envie de le lire, hein, et puis à côté de ça, donc il faut quand même se rappeler que Mayotte compte 200 000 habitants et qu'il y a 12% de la population de Mayotte qui est expulsée chaque année. Ça veut dire que si on mettait ça à l'échelle de la métropole, ça ferait un peu plus de 600 000 personnes, 6 millions, 6 millions de personnes expulsées chaque année de France. Hein. C'est énorme. Mais ça, bon, on en reparlera demain.
Voilà.
Et puis, donc, on va pas tarder à se quitter maintenant. Peut-être quelques mots avant de retrouver...
merci à Fréquence Paris Pluriel d'avoir consacré, et puis à toi d'avoir consacré cette émission au Muscadier, parce que ça fait plaisir de pouvoir partager des choses avec les auditeurs et puis avec toi, et puis de parler un petit peu de l'édition indépendante. C'est important, et au-delà du Muscadier, je trouve que c'est bien qu'il y ait des radios qui...
Oui, je crois que c'est très nécessaire de défendre l'édition indépendante, parce que l'édition indépendante doit vivre. Des endroits, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, comme le Salon du Livre de Paris qui se tient au moment où on enregistre, hein, puisqu'en fait, en vrai, on n'est pas en direct, hein, et qu'on enregistre lundi, vendredi, et que donc... au moment du Salon du Livre, tu viens à Paris au moment du Salon du Livre, mais il n'y a pas de stand.
Non, c'est pas possible pour une petite maison comme nous.
Et la plupart des éditeurs copains n'ont pas de stand, ne peuvent pas avoir de stand, ou un petit stand partagé.
Ouais. Où il faut atteindre effectivement un niveau... nous, on a une cinquantaine de titres maintenant, mais malgré tout, ça nous est difficile... d'avoir un stand sur Paris, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des endroits où on peut nous donner la parole. Aline Payet, par exemple, qui est une journaliste que je salue au passage, que j'aime beaucoup, et qui aime beaucoup le Muscadier aussi, qui avait d'ailleurs participé au projet Alter Gouvernement. C'est quelqu'un qui donne aussi la parole aux jeunes maisons d'édition, aux éditions indépendantes, mais c'est pas courant.
C'est pas courant.
Donc, merci.
Sur FPP, on ne fait que ça, parce qu'il faut pas oublier que FPP, c'est la voix des sans voix. Même si l'édition indépendante n'est pas totalement sans voix, et heureusement d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous avez un site, hein, Muscadier.
Muscadier.fr.
Muscadier.fr, voilà. Où on peut retrouver votre catalogue.
Tout le catalogue, des extraits de tous nos ouvrages. On peut aussi acquérir les livres en ligne si on le souhaite. Voilà, on est distribué et diffusé en librairie. Normalement, si on commande un ouvrage du Muscadier dans n'importe quelle librairie, on peut se le procurer.
Et puis, donc, pour nous quitter, hein, tu nous as préparé un autre titre du sous-copain. Des contes du sous-commandant Marcos.
Voilà, c'est un morceau c'est un conte qui a été adapté en partie musicalement par Manu Chao, qui nous a fait l'amitié de participer aussi à ce CD et qui raconte l'histoire de Géant, et c'est une très belle histoire aussi du sous-commandant Marcos. Voilà, et ça vaut le coup d'écouter le texte parce qu'il dit beaucoup de choses dans le texte.
Ouais, bien, merci beaucoup Bruno, et puis donc tu repars je crois demain ou après-demain, donc quand cette émission sera
dimanche
diffusée
soir, oui.
Tu pourras pas nous écouter sur 106.3 mais sur www.rfpp.net, hein, puisque tu seras retourné à La Réunion, et donc on se quitte en écoutant donc Manu Chao et les contes du sous-commandant Marcos. Au revoir, et puis je vous dis donc à demain pour l'émission RESF.
Les plus anciens des anciens qui peuplèrent ces terres racontent que les plus grands dieux, ceux qui firent naître le monde, ne pensaient pas tous de la même manière. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la même pensée, mais que chacun pensait à sa façon, et entre eux, ils se respectaient et s'écoutaient. Les plus anciens des anciens disent que les choses étaient vraiment comme ça, car si cela n'avait pas été ainsi, le monde ne serait jamais né, parce que les premiers dieux auraient passé leur temps à se disputer. Puisque la pensée que chacun d'eux ressentait était différente. Les plus anciens des anciens disent que pour cette raison, le monde est fait de multiples couleurs et de multiples formes. Autant que les plus grands dieux, les tout premiers, avaient de pensées en eux. Ils étaient 7 les plus grands dieux, et 7 les pensées de chacun d'eux, et 7 × 7 sont les formes et les couleurs avec lesquelles ils vêtirent le monde. Le vieil Antonio me dit qu'il avait demandé aux plus anciens des anciens comment les premiers dieux avaient fait pour se mettre d'accord et se parler, alors que les pensées qu'ils ressentaient étaient si différentes. Les anciens, les plus anciens, répondirent qu'il y eut une assemblée des 7 dieux avec les 7 pensées différentes de chacun d'eux, et durant cette assemblée, ils trouvèrent un accord. Le vieil Antonio dit que les anciens, les plus anciens, dirent que cette assemblée des premiers dieux, ceux qui firent naître le monde, eut lieu longtemps avant l'hier, dans le temps où il n'y avait pas encore de temps. Et ils dirent que, dans cette assemblée, chacun des premiers dieux exprima sa parole, et tous dirent « Ma pensée, celle que je ressens, est différente de celle des autres. » Et alors les dieux demeurèrent en silence, car ils se rendirent compte que chacun d'eux disait « les autres », ils parlaient d'autres, différents. Après être restés un moment silencieux, les premiers dieux comprirent qu'ils avaient déjà un premier accord. C'était qu'il y avait des autres, et que les autres étaient différents de ceux qui étaient un. Ainsi, le premier accord entre tous les premiers dieux fut de reconnaître la différence et accepter l'existence de l'autre. Et comment faire autrement si, de toute manière, ils étaient tous des dieux, tous premiers, et qu'ils devaient s'accepter, parce qu'il n'y en avait aucun qui fût plus ou moins que les autres. Simplement, ils étaient tous différents, et ainsi ils devaient cheminer. Après ce premier accord, la discussion continua, car c'est une chose de reconnaître que les autres, les différents, existent, et c'en est une autre, très différente, de les respecter. Ainsi, ils passèrent un bon moment à se parler et à discuter de comment chacun était différent des autres. Et peu leur importait de prolonger cette discussion, car, de toute façon, le temps n'existait pas encore. Ensuite, tous se turent et chacun parla de sa différence. Et chacun des autres dieux qui écoutaient se rendit compte qu'en écoutant et en connaissant les différences de l'autre, il se connaissait lui-même davantage et mieux dans ce qu'il y avait de différent. Alors ils furent tous très contents et se mirent à danser, et cela dura longtemps. Mais pour eux, cela n'avait pas d'importance, car en ce temps-là, il n'y avait pas encore de temps. Après avoir dansé, les dieux parvinrent à l'accord qu'il était bon qu'il y ait des autres, qu'ils soient différents et qu'il faut les écouter pour nous connaître nous-mêmes. Et après cet accord, ils s'en allèrent dormir parce qu'ils étaient très fatigués d'avoir tant dansé. De parler, ça, ils n'étaient pas fatigués, car ils étaient vraiment très doués pour le bavardage, ces premiers dieux, ceux qui firent naître le monde et qui apprenaient tout juste à écouter.